elle a été enlevée, donc elle n'avait pas la même. Voilà. Donc Alex et Ingrid sont donc missionnaires avec une organisation qui s'appelle Parole de Vie, donc avec lequel nous collaborons souvent. Et alors, qui dit le mot missionnaire, ça veut dire quoi missionnaire ? Envoyé ? Quoi d'autre ? Envoyés spéciaux, voilà. C'est des agents spéciaux, très spéciaux. Ouais. Et donc, ils ont quitté le confort d'un travail séculier pour se mettre au service de Dieu. Et alors, les missionnaires, eh bien, ça vit de dons. Oula. Don. Est-ce que c'est qu'un don ? C'est une grâce, un soutien qu'on apporte à quelqu'un. Donc, si... Il y a des hommes et des femmes qui, dans cette église, qui se disent, tiens, Alex, Ingrid, ils mériteraient que je les aide. Eh bien, je vous les remets. Donc, vous venez me voir, ou le voir directement, ou les voir directement, en essayant de savoir. Donc, vous pouvez leur donner des espèces sonnantes et trébuchantes, un chèque, un engagement. Mais c'est important. Dieu a appelé des hommes et des femmes à quitter leur travail, quitter leur sécurité, quitter des fois leur pays. Bon, lui, il a quitté son pays, il s'est recentré dans la région parisienne. Ils ont accepté de venir souffrir avec nous en région parisienne. Mais en tout cas, donc, Dieu les a appelés et j'avais à cœur de pouvoir vous les remettre aussi, de remettre les missionnaires. On prie souvent pour eux, mais des fois, la manière pratique aussi. Ce matin, il a dit qu'il était très pragmatique, qu'il aimait bien les choses terre à terre. Alors, la chose terre à terre, c'est aussi de parler d'argent et donc de pouvoir aussi les aider. Voilà, donc n'hésitez pas à parler avec eux. Donc à la fin du culte, on aura un temps de repas ensemble pour ceux qui ont été avertis. Encore un petit temps de chance cet après-midi, donc vous avez l'occasion. Et si vous voulez leur transmettre par les moyens de Parole de Vie, je vous donnerai aussi les coordonnées. Voilà, on va juste prier et laisser Alex apporter le message. Seigneur, nous voulons te remercier pour ce moment. Merci pour Alex, pour Ingrid, pour leur vie qu'ils t'ont offerte, Seigneur, pour te servir. En France, Seigneur, et je te loue pour le ministère au travers des jeunes, je te loue dans le ministère qu'ils apportent aussi dans les églises, dans leur église locale aussi. Et je veux te remettre maintenant ce message, te remettre aussi l'école du dimanche, les enfants, Seigneur, qui vont pouvoir être enseignés pendant ce temps. Je te prie au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc les enfants peuvent suivre leur moniteur, ou Trice. Trice. Il n'y a pas d'auteur. Il n'y a pas d'auteur. Pas encore, pas encore.
Allô, vous m'entendez ? Ça va ? Il est midi ! Je sais ce que vous vous dites, hein. Il est midi, sois pas trop long, mon ami. Non, j'ai essayé d'être pas trop long. Mais en tout cas, c'est une joie pour nous d'être ici. Et comme Pasteur a dit, c'est vrai, on est missionnaire. On n'aime pas trop parler d'argent. C'est quelque chose qui se fait pas trop, hein, dans le milieu français. Mais malheureusement, on doit tous vivre d'argent. Mais je vous cacherai pas que depuis qu'on est missionnaire, Dieu a été plus que fidèle. C'est incroyable. C'est incroyable. On a des choses qu'on n'imaginait même pas avoir. Donc là, je parle des choses matérielles. Hein. Et que Dieu nous a donné, que Dieu nous a fait grâce. Des cadeaux, des offrandes, la fidélité de certaines personnes qui se sont engagées auprès de nous. Et donc, on peut vraiment témoigner ce matin que on est vraiment étonné de voir comment Dieu il nous bénit mais c'est vrai qu'on a besoin de votre soutien. Alors on a besoin que vous priez pour nous, ça c'est sûr. On prie pour vous, il faut que vous priez pour nous. Mais si jamais, comme Jean-Claude l'a dit, le Seigneur est en train de mettre un fardeau dans votre cœur, peut-être vous vous dites, j'aimerais faire partie de ce que Parole de Vie fait. Bah, une façon pratique, c'est de vous engager avec nous. Tout simplement, 5-10 euros par mois, s'engager. Et vous allez faire partie de ce que le Seigneur fait à travers nous, à travers Parole de Vie. J'ai pas le temps de vous raconter toutes les conversions qu'on a vues, les jeunes qui sont passés de la mort à la vie. Mais ce qui est sûr, c'est que les personnes qui nous soutiennent aussi, financièrement, on leur envoie de nos nouvelles et on leur dit « Vous faites partie de cette vie transformée pour Christ. » Voilà, une façon concrète de faire partie de ces choses. Priez pour nous. Et j'aimerais beaucoup qu'à la fin du culte, j'aimerais que vous receviez aussi de nos nouvelles. Et on envoie des nouvelles assez régulièrement. Peut-être vous n'êtes pas sur notre liste de contacts. Peut-être vous voulez pas encore vous engager ou vous voulez juste prier pour nous. Ben, ça nous ferait énormément plaisir de prendre votre adresse email et de vous rajouter sur notre liste de contacts. Et vous allez recevoir de nos nouvelles régulièrement. Toutes les 2 semaines normalement, au moins 1 fois par mois. Voilà. Et de vous réjouir avec nous de ce que le Seigneur fait à travers le ministère de Parole de Vie. Donc c'est une joie pour nous d'être ici. Voilà. Alors ce matin, on va parler de quelque chose qui nous affecte tous. Personne ce matin va pouvoir dire dans cette salle « ça me concerne pas ». Hein, parfois, le pasteur il apporte certains messages et parfois on peut se dire « ça me concerne pas trop cette affaire ». Mais ce matin, ça nous concerne tous. Et on sait que le péché, c'est quelque chose qui a fait énormément souffrir le cœur de Dieu, d'une façon si énorme qu'il a décidé de faire quelque chose pour remédier au péché. Ça l'a tellement affecté qu'il s'est dit, il faut que je trouve un moyen. Il faut que je trouve un moyen, je ne peux pas laisser l'humanité comme ça, dans le péché. Il faut que j'imagine un plan formidable pour que l'homme soit sauvé de ses péchés. Et on l'a vu ce matin, on l'a chanté, Jésus-Christ, c'est la solution. Mais quand on devient chrétien, bien sûr, le péché ne disparaît pas de notre vie, n'est-ce pas? Ce serait tellement beau, tellement simple. On deviendrait parfait, on n'aurait plus besoin d'être sur cette terre. On se convertit, ploup, on va au ciel. Mais non, Dieu il nous laisse sur cette terre. Il veut se servir de nous, il veut nous utiliser pour que d'autres puissent comprendre qu'il y a une solution pour le péché. Ce n'est pas une fatalité. Et ce matin, on va juste lire dans 2 Samuel chapitre 12. 2 Samuel chapitre 12. On va voir rapidement. Je mets des petites notes sur l'écran, comme ça vous pouvez suivre avec moi. 6 visages du péché. Là, je m'adresse à des chrétiens, bien sûr. Hein, des gens qui sont convertis, qui ont placé leur foi en Jésus-Christ. Le roi David, il faisait partie aussi de ces chrétiens que nous sommes. Il avait compris que Dieu l'avait sauvé par grâce. Mais le roi David, il a fait des erreurs, comme nous tous. Mais il en a fait une qui lui a particulièrement, si je veux parler franchement, pourri la vie. Et ça, c'était quoi? C'était son péché d'adultère. Avec qui? Voilà. Voilà, on connaît l'histoire, n'est-ce pas? Le roi David, qui avait tout, il est tombé si bas. Et donc, quand il a commis ce péché avec cette femme, David, il essaie de masquer son péché, n'est-ce pas? Il essaie de le couvrir. Il essaie de le cacher. Qu'est-ce qu'il fait pour cacher son péché? Il va commettre un meurtre. Hein, il est très malin, il est très intelligent, très astucieux en fait. Il essaie de se débarrasser de son péché. Donc il dit, si je me débarrasse de la personne qui est son mari, je me débarrasse du péché. Après, cette femme peut vivre avec moi et tout va bien. Et dans son plan, il est très astucieux. Et nous, quand on pêche contre Dieu, parfois,
parfois aussi, on veut le cacher, n'est-ce pas? Parfois, ça peut aller loin quand on veut cacher notre péché. Mais voilà, il est en ce moment, là, quand on va lire ce chapitre, enfin, ces quelques versets du chapitre 12, David a commis ce péché. Il sait qu'il a tort devant Dieu. Il sait qu'il n'est pas en règle avec Dieu. Il vient de tuer Uri, le mari donc de cette femme sur laquelle il a jeté ses yeux, qu'il a mis dans son lit. Et l'Éternel va envoyer quelqu'un pour faire comprendre à David la gravité de son péché. Il va envoyer qui ? Nathan, le prophète Nathan, qui a cette lourde tâche. Moi, j'imagine Nathan mort de peur. Il va dénoncer le péché du roi d'Israël. Nathan, il se dit, c'est bon, je suis mort là. Je dis au roi, écoute roi, t'as péché, il me tue. C'est le roi, il peut faire ce qu'il veut. Comment moi, un simple prophète, je vais lui dire, roi, t'as péché contre Dieu, voilà ce que t'as fait. Mais Dieu lui demande de le faire. Nathan, tout tremblant, il va devant David. Qu'est-ce qu'il dit, verset 2 ? Dieu prépare Nathan et il va amener ça à David d'une façon très subtile. Nathan dit à David, « Dans une ville vivaient deux hommes, l'un riche et l'autre pauvre. Le riche possédait beaucoup de moutons et de bœufs. Le pauvre n'avait qu'une petite brebis qu'il avait achetée et qu'il élevait. Elle grandissait chez lui auprès de ses enfants. Elle mangeait de son pain, buvait à son bol et couchait dans ses bras. Elle était pour lui comme une fille. » Un jour, un voyageur arriva chez l'homme riche, mais celui-ci ne voulut pas prendre une bête de ses troupeaux, de moutons ou de bœufs, pour préparer un repas au voyageur de passage. Alors il alla prendre la brebis du pauvre et la fit apprêter pour son hôte. David entra dans une violente colère contre cet homme. Il dit à Nathan, « Aussi vrai que l'Éternel est vivant, l'homme qui a fait cela mérite la mort. » Il restituera 4 fois la valeur de la brebis pour avoir commis un tel acte et pour avoir agi sans pitié. Alors Nathan dit à David, cet homme-là, c'est toi. Voici ce que déclare l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je t'ai conféré l'onction pour t'établir roi d'Israël. Je t'ai délivré de Saül. Je t'ai livré la maison de ton seigneur Saül. J'ai mis les femmes de ton seigneur dans tes bras et je t'ai établi chef sur Israël et sur Juda. Et si cela était trop peu, j'étais prêt à y ajouter encore d'autres dons. Alors pourquoi as-tu méprisé ma parole en faisant ce que je considère comme mal? Tu as assassiné par l'épée Uri le Hittite, tu as pris sa femme pour en faire la tienne, et lui-même tu l'as fait mourir par l'épée des Ammonites. Maintenant, la violence ne quittera plus jamais ta famille parce que tu m'as méprisé et que tu as pris la femme d'Uri le Hittite pour en faire ta femme. Voici ce que déclare l'Éternel. Je vais faire venir le malheur contre toi, du sein même de ta famille. Je prendrai sous tes yeux tes propres femmes pour les donner à un autre qui s'unira à elles au grand jour. Toi, tu agis en cachette. Mais moi, j'exécuterai cela sous les yeux de tout Israël au grand jour. Prions. Oui, Seigneur, bénis ces instants. Aide-nous, Seigneur, à comprendre la gravité du péché dans notre vie. Et à nous en éloigner. En ton nom, Seigneur Jésus. Amen. Amen. Donc Nathan raconte cette petite histoire au roi David, qui s'imagine même pas qu'il est en train de parler de son propre cas. Et le roi David prononce sa propre sentence. Il dit, cet homme, il mérite la mort. Et Nathan lui dit, regarde tout ce que Dieu t'a donné. Tout ce qu'il t'a donné. En plus, des femmes, t'en as plein, t'as des concubines, t'as des femmes, Dieu il t'a tout donné, même des choses peut-être que tu méritais pas. Et toi, tu veux toujours plus. Regarde ce que tu as fait. Je t'ai établi roi sur tout Israël. Et si cela était peu, j'aurais rajouté d'autres choses. Qu'est-ce qui se passe dans notre vie quand on laisse le péché nous ronger, n'est-ce pas? Alors après, chacun d'entre nous ici dans cette salle, on va mettre un nom, peut-être, sur ce péché. Moi, je ne connais pas vos vies. Je ne connais pas les secrets de vos vies. On a tous des secrets. Mais je sais que à la fin de ce culte, peut-être tu pourras mettre un nom, plusieurs noms. Que le Seigneur nous aide. Qu'est-ce qu'il a fait David ? Verset 2. Le riche possédait beaucoup de moutons et de bœufs. Premièrement, un premier visage du péché. Donc on vient de lire ce passage, hein, 2 Samuel 12, versets 1 à 12. Le péché, qu'est-ce qu'il fait ? Il regarde ce qu'il n'a pas. Qu'est-ce qu'a fait le roi David ? Il a regardé ce qui lui manquait. Et si j'avais un verre d'eau ce matin, un verre d'eau à moitié plein, cette assemblée va se diviser en deux catégories de personnes. Vous connaissez bien, hein, peut-être cette petite illustration. Il y a une partie de cette assemblée qui va voir le verre comme moitié vide et l'autre comme moitié plein. Voilà, il y aura une onde positive pour certains qui vont dire « Non, mais il y a déjà de l'eau, c'est bien !» Et puis l'autre, ils vont dire « Non, non, il manque de l'eau, là. Il faut rajouter. Il n'y a pas assez d'eau. » Le verre à moitié rempli. Et David, qu'est-ce qu'il a vu là ? Il a vu ce qui lui manquait. Il n'a pas vu déjà toute l'eau qui était déjà là. Tout ce que Dieu lui avait déjà donné. Il a vu ce qui manquait à ce verre. Regardez ce que Nathan dit. Le riche possédait beaucoup de moutons. Il possédait tout, David. Qu'est-ce que nous dit Hébreux chapitre 13, verset 5 ? Hébreux chapitre 13, verset 5. Que votre conduite ne soit pas guidée par l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez présentement. Car Dieu lui-même a dit, « Je ne te délaisserai pas, non, je ne t'abandonnerai jamais. » Dieu lui-même l'a dit. Contentez-vous de ce que vous avez présentement. Moi, j'aime bien parler terre à terre, vous en êtes rendu compte. Contentez-vous de ce que vous avez présentement. Est-ce que on pratique l'art du contentement ? L'art du contentement, oui, c'est un art. C'est très difficile, hein. Ça demande beaucoup d'années de pratique. L'art du contentement. De se contenter avec ce que tu as déjà. Avec ce que nous avons déjà. Et oui, le Seigneur bénit. Oui, le Seigneur peut ajouter. Oui. Oui, il peut faire grâce. Oui, il n'y a pas de souci. Quand il voit qu'on a un cœur reconnaissant avec ce qu'on a déjà. Moi, je l'ai vécu. Et on le vit avec ma femme. Et c'est incroyable. C'est incroyable de voir comment Dieu, il fait bouger les choses. Parfois, il nous donne ce qu'on... On n'imaginerait pas. Parce qu'il voit déjà un cœur reconnaissant. Il y a des personnes aussi qui ne se sont pas contentées de ce qu'ils avaient. Ça, c'est Ananias et Saphira. Vous vous souvenez dans Actes chapitre 5 ? On ne va pas lire toute l'histoire. Hein, mais à cette époque-là, les disciples, ils rassemblaient toutes leurs choses, n'est-ce pas ? Ils vivaient des choses en commun. Ils vivaient simplement.